Europe 1.
Europe 1. 15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes un beau matin de l'année 1896. Voilà un homme qui s'avance vers l'entrée du domaine de chantilly dans lequel il vit. D'une allure distinguée, il porte un veston et un pantalon sombre, un chapeau haute forme couvre ses cheveux blancs et il serre sa canne dans sa main droite. Sous un soleil éblouissant, il marche tranquillement en faisant claquer ses bottes sur le pavé avec l'assurance d'un prince. À 74 ans, l'élégant duc d'Aumale ne paraît pas son âge. De son profond regard clair, il observe ce château qui ne lui appartient hélas plus. À mesure qu'il s'en approche, la belle silhouette Renaissance, cernée depuis des siècles par les eaux de la rivière Nonette, s'élève de plus en plus majestueuse devant le grand parterre à la française. Et au fil de sa promenade, la statue équestre à l'effigie du connétable Anne de Montmorency, qui depuis 10 ans maintenant semble marcher au pas vers les portes du château, se fait de plus en plus imposante. Avant de pénétrer dans la cour du palais, le duc lève humblement les yeux vers l'ancien maître des lieux. Henri d'Orléans, duc d'Aumale, 5e fils de l'ancien roi Louis-Philippe Ier, vit en effet ici sur les terres d'illustres défunts qui portaient les noms de Montmorency et de Condé. Et il sait combien ces puissantes familles ont compté dans l'histoire de Chantilly. À la Renaissance, au XVIe siècle, c'est Anne de Montmorency, le connétable de France et le conseiller de François Ier, qui confia à l'architecte Jean Bulland la construction du petit château, un châtelet alors annexé à la forteresse médiévale qu'avait fait ériger la famille d'Orgemont pendant la guerre de Cent Ans. Or, ce petit château, comme on le nomme couramment, c'est la seule partie du palais qui a survécu à la Révolution française. Quand en 1830, le dernier prince de Condé a choisi de léguer sa fortune à son petit-neveu et filleul, Henri d'Orléans, âgé de 8 ans seulement, il ne restait, hormis des bâtiments épars, presque rien du château ancestral. Et en grandissant, le duc d'Aumale se mit à rêver de redonner corps au palais disparu de ses prédécesseurs. Malgré l'exil de 23 ans auquel le condamna la déchéance de son père, Louis-Philippe, en 1848, il n'abandonna jamais son projet de reconstruire un jour le palais des Bourbons-Condé. Même lorsqu'une loi de 1852 contraignit tous les membres de la famille d'Orléans à vendre leurs biens en France, le duc d'Aumale, trop attaché à ses murs dont il avait hérité enfant, s'arrangea pour vendre fictivement Chantilly à des banquiers anglais, tandis que l'argent que lui rapportait la vente de ses autres biens lui permettait de réunir une riche collection d'œuvres d'art qu'il avait l'intention de rapporter en France. Depuis, le duc d'Aumale a vu son rêve devenir réalité. À son retour d'exil après la chute du Second Empire, Henri d'Orléans a pu reprendre possession de ce château dont il ne s'était jamais véritablement séparé et très vite mettre en œuvre son grand projet. Sur les boiseries, les portes, les décors sculptés, les plafonds, partout, les pièces reconstruites du château de Chantilly sont signées des initiales H.O. Henri d'Orléans. Si le duc d'Aumale a ainsi marqué les lieux de son empreinte, il n'oublie pas de rendre hommage à ceux qui l'y ont précédé. À l'étage du petit château Renaissance survit ainsi le souvenir des princes de Condé, la dynastie dont le nom reste inexorablement attaché à Chantilly. En 1633, la plus belle maison de France, comme l'a surnommé Henri IV, avait été confisquée au duc Henri II de Montmorency par le pouvoir royal. Et le petit-fils d'Anne de Montmorency, payant ainsi le prix de sa révolte armée contre le cardinal de Richelieu, décapité à Toulouse. Le domaine de Chantilly avait finalement été rendu à la famille 11 ans plus tard, restitué alors à sa sœur, Charlotte de Montmorency, épouse d'Henri II de Bourbon, prince de Condé. Au printemps de cette année 1643, alors que le roi Louis XIII vient de rendre son dernier souffle, la princesse éprouve la fierté de voir son fils Louis II de Bourbon-Condé s'illustrer sur le champ de bataille. À seulement 23 ans, le brillant militaire remporte alors une victoire décisive contre les Espagnols à Rocroi, qui sauve le royaume de l'invasion. Cette bataille, qui reste gravée dans les mémoires, lui vaut l'estime du jeune Louis XIV à l'aube de son règne. 3 ans plus tard, à la mort de son père, celui que l'on surnomme bientôt avec admiration le Grand Condé, prince du sang et cousin du roi, devient le maître de Chantilly. Mais au milieu du XVIIe siècle, lorsque le héros de Rocroi se retrouve mis au ban du royaume Après avoir trahi Louis XIV en prenant part à la Fronde, il est contraint de quitter son château familial. Dès 1652, il s'enfuit aux Pays-Bas espagnols, loin de la cour de France. Jugé coupable de crimes de lèse-majesté par contumace, 2 ans plus tard, le grand Condé, déchu de ses titres et privé de ses biens, ne parviendra à se faire pardonner du grand roi qu'au terme de 7 longues années d'exil. De retour à Chantilly, il y mène une vie de faste digne de celle d'un monarque. Alors que le roi Soleil entreprend ses grands travaux à Versailles, Chantilly rivalise de luxe et de magnificence avec les plus belles demeures royales. Avant Louis XIV, le grand Condé reçoit dans ses murs les grands artistes et écrivains de son temps, certains Racine, Molière, Boileau, La Bruyère, La Fontaine, Madame de Lafayette ou encore Madame de Sévigné. Il organise des réceptions grandioses dans les somptueux jardins à la française qu'il commande au jardinier André Le Nôtre, tire des feux d'artifice au-dessus des jeux et des miroirs d'eau. En avril 1671, alors que tout le domaine est justement en effervescence, à l'occasion de la venue de Louis XIV, convié pour célébrer sa réconciliation avec le grand Condé, un tragique événement marque à jamais l'histoire de Chantilly. Le maître d'hôtel Vatel, qui a déjà vu la viande manquer au cours d'un précédent souper, s'affole lorsque le poisson prévu au matin du 24 tarde à arriver. Désespérant d'être à la hauteur de la tâche et voulant fuir le déshonneur, il préfère mourir. Il se transperce alors le cœur avec son épée, scellant au passage le mythe de la perfection à la française. Au temps du grand Condé, Chantilly tutoyait ainsi des sommets de raffinement dont il ne reste que peu de traces 200 ans plus tard. Les murs du grand château sont tombés et la plupart des aménagements paysagers dans le parc ont également été détruits à la Révolution. À l'intérieur, c'est bien au grand Condé que l'on doit les tableaux de la Galerie des Batailles, peints en mémoire de ses exploits militaires, mais la plupart des pièces qui ont survécu jusqu'au XIXe siècle sont en fait l'œuvre de l'un de ses descendants. Louis-Henri de Bourbon, 7e prince de Condé, contribua profondément à embellir le palais au XVIIIe siècle. Lui qui fut un temps premier ministre du roi Louis XV, agrandit et transforme alors la forteresse médiévale en un monument plus moderne. Il remet aussi au goût du jour les intérieurs en faisant notamment aménager les 2 singeries toujours visibles dans le château. Ces pièces, très à la mode au XVIIIe siècle, dont les décors peints mettent en scène des aristocrates à l'apparence simiesque, livrés à leurs passe-temps habituels, témoignent du goût prononcé pour l'Asie dont se prend la noblesse de l'époque. Dans les appartements d'apparat qui subsistent dans l'aile la plus ancienne du château de Chantilly, que le duc d'Aumale a pris soin de remeubler lui-même dans le style 18e, certains décors muraux sont d'époque. Les boiseries blanches et or de la chambre du 7e prince de Condé ont été réalisées vers 1720 sous la direction de l'architecte Jean Aubert, tout comme celles de son grand cabinet, de la grande singerie de la Galerie des Batailles et de l'ancien cabinet de physique. Chantilly se laissait alors gagner par l'esprit scientifique et la douceur de vivre du XVIIIe siècle. Le château et ses jardins n'ont eu de cesse de se déployer et de se magnifier ainsi au fil des modes et des années. À l'époque des Lumières, les Condé possédaient un cabinet d'histoire naturelle et une ménagerie désormais disparue. Dans les dernières décennies de l'Ancien Régime, plusieurs constructions vinrent encore agrémenter le domaine de Chantilly. Passionné de chasse à cour, le 7e prince de Condé fit bâtir les grandes écuries entre 1719 et 1735. Puis son fils, Louis-Joseph de Bourbon, avant dernier prince de Condé, fit aménager le charmant hameau qui allait inspirer plus tard celui de Marie-Antoinette à Versailles. Mais en 1799, je vous le disais, tout s'arrête. À la Révolution, les Condé émigrent hors des frontières du royaume, le domaine de Chantilly est bientôt vendu, le grand château est rasé et ses pierres réutilisées. Vous connaissez la suite. Lorsque le dernier membre de la dynastie disparaît en 1830, la maison de Condé s'éteint. Son fils et héritier, le duc d'Enghien, soupçonné d'avoir comploté contre Bonaparte, est en effet mort, fusillé, en 1804, dans les fossés de Vincennes. Et le domaine de Chantilly revient alors au chanceux duc d'Aumale, encore enfant. Bien des années plus tard, nous le retrouvons au rez-de-chaussée de son château, là, dans ses appartements privés qu'il avait inaugurés en 1847, après son mariage avec sa cousine Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, le duc d'Aumale porte le deuil de ses proches. dont aucun ne lui a survécu. Les appartements de son épouse, morte à 47 ans, alors qu'ils étaient en exil en Angleterre, demeurent comme figés au temps désormais lointain de la monarchie de Juillet. L'élégante chambre bleue est comme un petit sanctuaire à sa mémoire. Et dans le salon rond de la duchesse, Henri d'Orléans a fait recouvrir les murs et le mobilier de tissus violets, couleur du deuil. Dans ses propres appartements adjacents, des portraits et photographies de famille ornent tous les coins de la chambre qu'il nomme son mémorial à ses chers disparus. C'est vrai que depuis longtemps déjà, le vieux duc d'Aumale est bien seul. Son épouse a quitté ce monde et ses enfants aussi. Ses deux seuls fils, qui n'étaient pas morts en bas âge, sont décédés à seulement 21 et 18 ans. Louis d'Orléans en 1866 et François d'Orléans, son frère cadet, en 1872. Quand il a dû s'exiler en 1848 à seulement 26 ans, le duc d'Aumale n'a pas seulement quitté Chantilly, mais toute une vie laissée derrière lui. Lui qui était fils de roi et venait tout juste d'être nommé gouverneur général de l'Algérie est devenu collectionneur dans ses belles résidences britanniques, puis député de l'Oise à son retour en France en 1871 sous la Troisième République. Malgré la marche de l'histoire et la fin de la monarchie, Henri d'Orléans a tenu à rendre hommage aux figures de l'Ancien Régime qui ont compté à Chantilly, en affichant leurs portraits dans le petit salon rouge de ses appartements privés d'abord, mais pas uniquement. En ce jour de 1896, l'aristocrate de 74 ans parcourt le château de Chantilly rebâti tel qu'il l'avait imaginé. Après les avoir fait restaurer les appartements du petit château d'Anne de Montmorency dès son retour en France, il a fait reconstruire à partir de 1875 un grand château sur les fondations de celui détruit à la Révolution. Ces nouvelles constructions, ainsi que la chapelle aux allures Renaissance de Chantilly, sont l'œuvre de l'architecte Honoré Daumé. Une fois le gros œuvre achevé, c'est dans cette toute nouvelle aile du château qu'Henri d'Orléans a progressivement fait installer ses impressionnantes collections de peintures. Le duc d'Aumale, qui possède près de 850 tableaux et 4000 dessins, a fait accrocher les toiles du sol au plafond, comme le veut la mode du 19e siècle. Dans la galerie de peinture, la pièce maîtresse du château de Chantilly, des toiles de Philippe de Champaigne, peintre du 17e, d'Eugène Delacroix ou encore de Corot, se serrent les unes contre les autres, sur les murs tendus de rouge. Le duc d'Aumale affiche ici des œuvres orientalistes qui lui rappellent sans doute sa carrière militaire en Algérie dans les années 1840, mais aussi des tableaux ayant appartenu à son père Louis-Philippe. Accompagné de toute sa famille, le dernier roi des Français avait lui-même inauguré au château de Versailles un grand musée national dédié à toutes les gloires de la France en 1837. Un demi-siècle plus tard, son fils, le duc d'Aumale, lui emboîte donc le pas. À l'extrémité de la galerie de peinture, la rotonde d'inspiration florentine donnant sur les jardins de la Française accueille certains des chefs-d'œuvre italiens dont il a fait l'acquisition, des peintures Renaissance de Botticelli, le Titien, Fra Angelico, mais aussi des toiles plus récentes de Nicolas Poussin, maître du classicisme, d'Antoine Watteau, figure du Rococo, ou encore d'Ingres et d'Eugène Delacroix. Voisine de la grande salle à manger où le duc d'Aumale reçoit somptueusement l'élite artistique et littéraire de son temps, la galerie de peinture de Chantilly ne manque pas de faire l'admiration de ses visiteurs parce qu'elle est la deuxième galerie de peinture en France après celle du Louvre. En plus de ses innombrables œuvres d'art, Henri d'Orléans possède aussi des dizaines de milliers d'ouvrages rares. Une superbe collection qu'il dévoile dans le cabinet des livres qui se trouve dans l'aile Renaissance. Cette magnifique bibliothèque du 19e siècle compte plus de 19 000 volumes anciens, dont environ 200 manuscrits enluminés du Moyen-Âge. Le plus précieux entre tous est peut-être le célèbre manuscrit des très riches heures du duc de Berry, un livre de prières datant du 15e siècle, acquis par le duc d'Aumale en 1856. En regroupant minutieusement tous ces trésors pendant ses longues années d'exil, le duc avait d'abord l'intention de les rassembler afin de les protéger. Puis, à la mort de son dernier fils en 1872, sachant que son château ne reviendrait à aucun de ses descendants, il se résout définitivement à le transformer en musée pour y exposer un jour ses collections aux yeux du grand public. Passionné et érudit, le duc d'Aumale a ainsi créé au château de Chantilly le musée Condé, un lieu de mémoire célébrant les arts, la littérature et l'histoire. témoin des révolutions et des changements de régime qui n'ont eu de cesse de secouer la France du XIXe siècle. Henri d'Orléans craignait en effet profondément de voir de nouveau ses œuvres dispersées. Il en avait si peur que lorsqu'il a cru venir son heure, en 1884, il a pris soin de rédiger des consignes très claires à ce sujet dans son testament. Par cet acte rédigé le 3 juin 1884, il lègue son domaine de chantilly, la totalité de ses collections à l'Institut de France, dont il est déjà deux fois membre, puisqu'il a été élu à l'Académie française en 1871, puis reçu à l'Académie des Beaux-Arts en 1880. Le duc d'Aumale écrit, je le cite, « Voulant conserver à la France le domaine de chantilly dans son intégrité, avec ses bois, ses pelouses, ses eaux, ses édifices et tout ce qu'ils contiennent, trophées, tableaux, livres, archives, objets d'art, tout cet ensemble qui forme comme un monument complet et varié de l'art français dans toutes ses branches et de l'histoire de ma patrie à des époques de gloire, j'ai résolu d'en confier le dépôt à un corps illustre qui m'a fait l'honneur de m'appeler dans ses rangs à un double titre et qui, sans se soustraire aux transformations inévitables des sociétés, échappe à l'esprit de faction comme secousse trop brusque conservant son indépendance au milieu des fluctuations politiques. » Les craintes d'Henri d'Orléans sont loin d'être infondées. Dès 1886, il a même de nouveau été victime de ces fluctuations politiques lorsque le gouvernement de la Troisième République a promulgué une loi d'exil bannissant les chefs des anciennes maisons royales et privé les princes de leur grade militaire. À 64 ans, le général Henri d'Orléans, qui a aussi servi dans l'armée française sous la Troisième République, s'en offusque. Il s'en est plaint dans une lettre adressée au président Jules Grévy avant de quitter la France contre sa volonté et pour la seconde fois. Cet événement a précipité le passage du château de Chantilly dans le domaine public puisque son propriétaire décide à cette date de faire une donation immédiate à l'Institut de France sous réserve d'usufruit. Plus de 10 années avant sa mort, s'il peut encore y résider donc, le château de Chantilly ne lui appartient déjà plus et les journaux l'annoncent aussitôt. Le 3 octobre 1886, le quotidien régional et républicain La Petite Bourgogne synthétise les réactions de la presse française en quelques mots. Les journaux sont unanimes à rendre hommage aux sentiments élevés, généreux et patriotiques de Monseigneur le Duc d'Aumale au sujet du don vraiment royal qu'il vient de faire à la France. Quelques voix à peine, les unes par leur silence, les autres par leur réticence et leurs réflexions malveillantes, voudraient en vain troubler ce concert d'éloges et de reconnaissance. En 1888, l'Institut de France demande au gouvernement de permettre le retour du prince exilé qui revient à Paris et est reçu à l'Académie des sciences morales et politiques l'année suivante. Même éloigné de Chantilly, le duc d'Aumale poursuit à distance les travaux d'aménagement du logis du Grand Château. Au-delà de la galerie de peinture et de la rotonde, l'exposition d'art se poursuit en effet dans des pièces plus étroites. L'une porte le nom de son épouse, Caroline. Une autre rend hommage à certains de ses frères et sœurs disparus, Ferdinand, Marie, Louise d'Orléans. Plus loin, un cabinet est réservé à l'exposition de vases antiques et une salle est également consacrée au souvenir de sa carrière militaire, en particulier de sa prise de la Smala d'Abdelkader en Algérie en mai 1843. Mais l'une des pièces les plus étonnantes du musée Condé est la galerie de Psyché, un corridor étroit dont les vitraux proviennent du château d'Écouen dans le Val d'Oise. Ces 44 vitraux qui ont été réalisés au XVIe siècle pour le connétable Anne de Montmorency sont un autre hommage à l'ancien propriétaire de Chantilly. Le duc d'Aumale, lui, en est le dernier. Depuis l'onirique galerie de Psyché, le vieil homme regagne maintenant le vestibule d'honneur de son palais. De retour dans la cour du château de Chantilly, il marque une pause et se retourne vers les façades claires du monument pour admirer son œuvre achevée. Marchant d'un pas tranquille comme il était arrivé, Henri d'Orléans se dirige maintenant vers les grilles de l'entrée que l'on referme derrière lui. À la fin de sa vie, le duc d'Aumale partage ainsi son existence entre le château de Chantilly, un appartement parisien et ses demeures italiennes. C'est d'ailleurs dans sa résidence du Succo, en Sicile, que le dernier prince du château de Chantilly meurt d'une crise cardiaque, le 7 mai 1897. Dans les journaux de l'époque, le prince de 75 ans n'aurait pas supporté la nouvelle du décès de sa nièce, la duchesse d'Alençon, victime du terrible incendie du bazar de la Charité à Paris, le 4 mai 1897. C'est une figure du temps passé qui disparaît, peut-on lire dans les colonnes du quotidien républicain, le 19e siècle, le 9 mai. De tous les membres de cette famille d'Orléans, aujourd'hui émiettée, seul il avait pu conquérir une certaine popularité, juge le journaliste. En exil, ajoute-t-il, le duc d'Aumale fit à l'Académie le don princier du château de Chantilly. En moins d'un an après le décès du duc d'Aumale, le musée Condé ouvre ses portes au public le 17 avril 1898 et conformément à ses dernières volontés. Chantilly n'a pas changé depuis. Soucieux de préserver son château de nouvelles destructions, le duc d'Aumale avait en effet formulé dans son testament l'impossibilité de modifier après sa mort la disposition des œuvres du musée Condé et l'interdiction de les prêter, de les faire sortir de Chantilly. Dans son testament, le duc demandait aussi expressément que les galeries et collections du musée Condé soient ouvertes au public au moins deux fois par semaine pendant 6 mois de l'année et qu'en tout temps, les étudiants, les hommes de lettres et les artistes puissent y trouver des facilités de travail et de recherche dont ils auraient besoin. Depuis plus d'un siècle, le domaine de Chantilly est un lieu culturel ouvert au plus grand nombre. Les derniers vœux de celui qui ne repose pas là, mais dans la chapelle royale de Dreux, dans la nécropole de la famille d'Orléans, ont été exaucés.
Europe 1, historiquement vôtre.